Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients ont bougé.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spézelles.
Oh, bon, merci. Vous pouvez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good!
Quand je vais chez le médecin et que dans la salle d'attente, je m'aventure à feuilleter ces magazines qui, soyons honnêtes, ne me font jamais trop envie parce qu'ils ne parlent que de recettes diététiques, il y a une succession de mots qui reviennent souvent et sonnent alors presque comme une punition. Cuit à la vapeur. Souvent associé à l'idée de minceur et de conservation des nutriments, la cuisson vapeur dans ce contexte donne l'impression que les aliments seront forcément fades. Et pourtant, cuire à la vapeur ne présage pas d'un goût en particulier. Cuire à la vapeur, c'est une technique. Et comme toutes les techniques, elle est un moyen d'accéder à des résultats qui dépendent également d'autres paramètres. Ce qu'on décide de cuire ou non à la vapeur pour obtenir telle ou telle texture avec tel ou tel condiment. Alors oui, cuire à la vapeur, c'est cuire sans avoir recours à de l'huile ou du beurre, mais en soi, l'absence de matière grasse n'est pas l'unique façon de définir ce mode de cuisson. Définir cette façon de cuisiner par la négation, ça ne serait pas lui faire honneur, car la cuisson vapeur a son utilité propre. Elle est douce car l'aliment n'est pas en contact direct avec une source de chaleur ni plongé dans l'eau puisqu'il cuit grâce à la vapeur obtenue par ébullition de l'eau placée au fond. Dans les cuisines d'Afrique du Nord par exemple, cuire le couscous à la vapeur permet de ne pas diluer son goût dans une grande marmite d'eau. Pareil en Côte d'Ivoire avec l'attiéké, ce mets traditionnel fabriqué à partir de manioc. Au four, la graine se dessécherait car l'air conduit mal la chaleur et suppose donc un temps de cuisson long. C'est pour ça que la plupart des cuissons au four proposent d'immerger les ingrédients dans un liquide, comme de la crème par exemple. A l'inverse, dans le couscoussier, la graine de semoule va se gorger d'eau et garder toutes ses saveurs. Certains font valoir qu'en un sens, cuire à la vapeur, c'est utiliser une technique à mi-chemin entre la cuisson au four et la cuisson à l'eau. Surtout, il y a des préparations qu'on ne pourrait pas réaliser autrement. C'est par exemple le cas des bao, ces petits pains blancs farcis et cuits à la vapeur que l'on aime tant manger en Chine et au Vietnam. En deuxième partie d'épisode, l'autrice culinaire Margot Zhang nous explique pourquoi on ne pourrait pas envisager de cuire les bao au four ou à l'eau. Elle raconte aussi comment ces délicieuses boules blanches et moelleuses ont rythmé sa vie, de son enfance où elle mangeait ça fait maison en rentrant de l'école, à la vie étudiante où elle en achetait avant le début des cours.
Tous les matins, je prends pas le petit-déj à la maison. J'arrive tôt à l'université, avant que les cours soient commencés, je prends mon petit-déj, aller à la cantine à acheter des bons et d'ailleurs tous mes camarades, on faisait ça.
Mais avant ça, j'ai discuté avec Hervé Tisse, physico-chimiste à l'INRAE et professeur à AgroParisTech. Hervé Tisse aime rappeler que ce qu'on appelle cuisine, c'est à la fois le lieu et aussi l'activité qui consiste à préparer les aliments. Et ce qu'on appelle « produits » en cuisine, ce sont bien les plats que l'on prépare, et non les produits de l'agriculture, qui sont eux plutôt des ingrédients. Et dans tout ça, faire la cuisine, c'est à la fois l'activité technique qui consiste à laver, cuire, assembler, selon des opérations proches de celles de la chimie, et le fait de produire des aliments de culture, sains, loyaux, recevables, en un mot « bon », dit-il. Je lui ai demandé de nous expliquer ce qui se joue dans une cuisson à la vapeur.
Quand on a de l'eau liquide. Et quand on la chauffe, ça fait de la vapeur. Elle est abondante à 100 degrés quand l'eau commence à bouillir. Bon. Cette vapeur, quand on est dans une enceinte fermée, elle est à la même température que l'eau, c'est-à-dire à 100 degrés. Hein. Alors, on peut trouver des systèmes qui font que la vapeur va se refroidir, mais au bout d'un moment, la vapeur, puisque c'est des molécules d'eau, elles vont se recondenser et reformer de l'eau. Alors, cette vapeur, elle est donc chaude, et donc elle peut interagir avec un aliment et chauffer l'aliment. Donc, qu'on cuise à la vapeur ou qu'on cuise avec autre chose, de toute façon, on va chauffer l'aliment. Si c'est une viande ou un poisson, ça va coaguler. Si c'est un œuf, ça va coaguler. Si c'est un légume, à ce moment-là, il va s'amollir parce que la chaleur va dégrader le ciment qui est entre les cellules. Il y a une carotte, c'est un ensemble de petits sacs qui s'appellent des cellules qui sont cimentées par ce qu'on appelle la paroi cellulaire, et ça, à la chaleur, ça se dégrade, cette paroi cellulaire, c'est de la pectine, hein, avec la même pectine avec laquelle on fait les confitures, mais elle se dégrade à la chaleur, et à ce moment-là, la carotte s'amollit. Et donc, les légumes qui s'amollissent, que ce soit un poireau, une carotte, un navet, etc., c'est toujours la même chose, on touche au ciment entre les cellules. Et quand il n'y a plus de ciment, si on presse avec une fourchette, le légume s'écrase, et on fait une purée de carotte, ou une purée de navet, ou une purée de pommes de terre. Alors, la pomme de terre est un cas un peu particulier parce qu'elle contient de l'amidon, des grains d'amidon, et donc en plus, ces grains d'amidon s'empèsent, c'est-à-dire font un empois, comme quand vous faites une sauce blanche. Hein. Vous voyez, vous avez donc à peu près, vous avez deux cas bien séparés, la coagulation des viandes, des poissons, des œufs, et puis la cuisson des légumes. Quand il s'agit de chaleur, c'est toujours ça le mécanisme principal.
Et depuis quand on cuit des choses à la vapeur ?
Alors, il est moins ancien que la cuisson dans l'eau bouillante. Il y a un très vieux procédé qui s'appelle la cuisson en fosse, qu'on a retrouvé chez les hommes préhistoriques, mais qui existe encore dans certaines populations. En gros, on fait un trou, on y met une peau de bête et on met de l'eau dedans. À côté, on fait un feu, on chauffe des pierres, et ces pierres, on les met dans l'eau, ça chauffe l'eau, et à ce moment-là, on y met une viande et on fait un bouillon. Ça, c'était très important dans l'Antiquité, parce que, vous savez, la viande, c'était rare. Hein. Et jusqu'à une époque très récente, la vraie préoccupation, c'est d'avoir assez à manger. Donc, pour l'instant, on est des enfants gâtés. Hein. Ça ne durera peut-être pas, mais pour l'instant, on a assez à manger, on a peut-être même trop. Mais dans le temps, quand vous faites rôtir une viande, si vous mettez votre viande au-dessus du feu, vous perdez les jus. Et les jus, ça contient des nutriments. Donc ces gens, la viande bouillie, on récupérait la viande d'un côté et le bouillon. Et donc c'était très important d'avoir les deux à la fois. La cuisson à la vapeur, d'ailleurs, elle est pas terrible du point de vue de la récupération des jus, parce que quand vous chauffez la viande ou le poisson, il va se contracter, parce que le collagène se contracte. Et si on fait pas attention à la vapeur, ces jus, ils sont perdus. Et ils sont perdus, donc il faut apprendre, si on cuit à la vapeur, si on se préoccupe des nutriments, de récupérer les jus. Hein. C'est pas impossible. Par exemple, dans un four vapeur, on peut mettre une lèche frite en bas du four. Hein. Alors on va diluer un peu, mais c'est pas grave, on va récupérer ces nutriments. Et c'est important pour faire des sauces. Hein.
C'est quand même impressionnant quand on remet les choses dans leur contexte, d'imaginer qu'un jour, on a inventé la cuisson à la vapeur. Enfin, ça suppose quand même un peu une organisation d'avoir un endroit où faire chauffer de l'eau et puis ensuite un autre étage où disposer des ingrédients.
Oui, oui, c'est tout à fait exact. C'est pas un procédé si ancien que ça. Vous voyez, la viande bouillie, la viande rôtie, c'était ancien. La vapeur, c'est plus élaboré parce qu'il faut quand même une grille, enfin, ou un support. Alors, ce support, dans le temps, c'était des cagettes en bois, c'était Brillat Savarin, donc quand il parle dans sa physiologie du goût de la cuisson d'un turbo sur un lit d'algues, c'est ça dont il parle. C'est-à-dire, il y avait ce fantasme de que la vapeur passe à travers les algues, emporte des odeurs et les dépose sur le poisson. Hein. Ça, c'est une possibilité pour certaines herbes. Il faut en mettre beaucoup. Hein. Cette cuisson à la vapeur, dans le fond, elle s'apparente à ce qu'on appelle l'entraînement à la vapeur d'eau que pratiquent tous les aromaticiens, les parfumeurs. Vous voyez, c'est un très vieux procédé. Vous mettez dans un fond de casserole de la flotte, vous mettez par-dessus des herbes. Prenez une cocotte minute, vous voyez. Vous mettez de l'eau au fond, vous mettez un panier, et puis vous mettez des tas d'herbes, du romarin par exemple. À la place de la soupape de sécurité, vous mettez un tuyau, et ce tuyau, vous le refroidissez. Et bien, la vapeur va entraîner les odeurs du romarin, et vous allez les recondenser, et c'est comme ça qu'on fabrique les huiles essentielles.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est un vieux procédé, sauf que la distillation, parce que c'est une forme de distillation, elle est apparue sans doute chez les Chaldéens, donc 2000 ans avant notre ère, sous une forme très très rudimentaire. La vraie distillation, on va dire que c'est plutôt vers l'an 1000. Hein. Donc les Arabes ont travaillé avec la distillation, et puis l'alambic est un mot arabe. Hein. C'est donc au début de notre ère.
Dans quel contexte pensez-vous que la cuisson à la vapeur peut apporter plus de goût à un aliment?
Bon, elle apporte pas beaucoup plus de goût. Hein. Non, si on veut du goût, on fait rôtir. Hein. C'est bien clair. Quand il y a du brun, il y a du goût. Hein. D'ailleurs, il y a eu des expériences qui ont été faites il y a moins de 10 ans avec des singes, enfin des primates. Hein. Il y avait des grands singes, il y avait des chiens, il y avait des chats, et j'oublie certains. Mais en gros, quand on leur donne le choix entre un aliment cuit, et bien cuit, hein, et un aliment cuit vapeur ou cru, bah, ils préfèrent quand c'est bien cuit. Hein. Ça, c'est...
Ouais.
La cuisson, on oublie, mais elle a trois fonctions. La première, c'est d'assainir microbiologiquement. Parce que vous avez une pièce de viande devant vous, là, maintenant. Dans l'air, il y a plein de micro-organismes pathogènes. Donc, il faut assainir. Hein. À l'intérieur de la viande, si vous n'avez pas piqué la viande, il n'y a pas de microbes dedans. Hein. Il peut y avoir des parasites sur le porc, le cheval, le poisson, mais quand c'est bien traité, en général, il n'y en a pas. Mais, donc, la cuisson, déjà, elle assainit microbiologiquement. Sur les parasites, vous cuisez du porc à 82 degrés, vous tuez les parasites. Hein. Le poisson, c'est pareil. Le poisson cru, en ce moment, qui est très à la mode, il peut créer des parasitoses, mais si on le cuit, on n'a plus de problème. Donc, la cuisson, elle a cette première fonction. La deuxième fonction, c'est à la fois d'amollir et d'augmenter la biodisponibilité des nutriments. Vous voyez, une carotte crue, c'est très dur. Dans le temps, les gens, ils n'avaient pas des bonnes dents. Hein. Donc, quand vous cuisez une carotte, vous l'amollissez, mais surtout, vous permettez aux nutriments, que ce soit des vitamines, des oligo-éléments, que ce soit des sucres, des acides aminés et tout, vous permettez de les assimiler mieux. Et ça a sans doute été très important dans l'évolution de l'être humain. Bon. Et puis, le troisième, c'est de donner du goût. Hein. Or, la cuisson à la vapeur, elle ne donne pas de goût. Sauf si vous faites comme du dépôt de molécules odorantes qui sont entraînées à partir des algues, de l'ail, de l'échalote, du thym, du romarin. En Alsace, depuis des temps immémoriaux, donc on fait ces dampfnudels, c'est des préparations levées, de pâtes levées, farcies. On les fait griller des deux côtés, donc ça donne du goût. Et ensuite, on jette un verre d'eau dans la casserole qui s'évapore. Cette eau s'évapore, on met un couvercle et ça finit de cuire à la vapeur. Ça me paraît beaucoup plus intelligent parce qu'on a ce goût grillé. Enfin, mais il faut pas comparer. Je vous dis ça parce que je suis alsacien et que l'Alsace est le plus beau pays du monde. Mais vraiment, les dampfnudels, si vous avez jamais goûté ça, il faut vous jeter dessus immédiatement. Hein.
Les dampfnudels dont parle Hervé Tisse, originaire d'Alsace, se mangent aussi en Allemagne du Sud et en Autriche. La préparation de ces pains gonflés à la vapeur me fait penser à celle des gyoza, les raviolis japonais, que l'on grille d'abord sur une face afin d'avoir un côté doré, avant de jeter un verre d'eau dans la poêle et de couvrir pour cuire à la vapeur et faire ressortir le moelleux du ravioli. En fait, il y a vraiment plusieurs façons de cuire à la vapeur. Couscoussier, cuit-vapeur électrique, cocotte minute, panier en bambou, mais aussi autocuiseur. Je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'en France, la cuisson vapeur reste coincée dans cette image stéréotypée de fadeur, alors que dans tant d'autres cultures, elle représente une cuisine appétissante. Au Vietnam, dans ma famille, ou même en France, quand ma mère et mes tantes cuisinaient pour les repas du dimanche de mon enfance, la cuisson à la vapeur, c'était les bao ou encore le riz gluant. C'était donc synonyme de plats que tous aimaient, petits et grands. Sur les marchés d'Asie du Sud-Est, les petits paniers de bambou empilés portent en eux les mystères d'une grande diversité de mets affûtés par la chaleur douce d'une eau qui bout tranquillement. Impossible de ne pas avoir les sens en émoi et l'appétit sacrément aiguisé lorsqu'on déambule entre les allées. En Chine, cette technique de cuisson douce est également fortement appréciée pour faire lever des pâtes fragiles, comme celles des hakao, les raviolis crevettes que l'on mange en dim sum ou encore les bao. Margot Zhang, autrice culinaire d'origine chinoise, raconte ce qu'évoque pour elle la vapeur. Loin de la tristesse des plats de légumes hypocaloriques, sa vision d'une cuisine familiale plongée dans les volutes de vapeur est pleine de tendresse et de gourmandise.
Quand on parle de vapeur, ça m'inspire plutôt la douceur, la nature aussi. Ça me rappelle... À mon pays, un peu à mon enfance aussi, et toujours une image de dans la cuisine, il y a la vapeur qui monte, c'est quelque chose qui est chaude, ouais, douce, là un peu comme en...
réconfortant, un peu comme un,
voilà,
un nuage, quelque chose assez paisible en fait.
C'est ça. Paisible, oui.
En fait, ce qui est drôle, c'est que dans les cuisines chinoises, je dis les cuisines chinoises au pluriel parce qu'il y a tellement de spécificités régionales, mais je pense aussi à la cuisine vietnamienne et à d'autres cuisines asiatiques, la cuisson à la vapeur, c'est plutôt quelque chose que les gens aiment, alors qu'ici en France, quand on parle de cuisson vapeur, les gens ont souvent en tête les légumes qui n'ont pas trop de goût, qu'on va manger à la cantine. En fait, dans la cuisine chinoise, dans les cuisines chinoises, c'est très gourmand.
Et c'est très gourmand. gourmand. Il n'y a pas que ça. C'est pas cette image de légumes passés à la vapeur, saine, diététique. Non, c'est pas ça. Ça peut être très, très gourmand. Par exemple, un poisson cuit à la vapeur. Souvent, ici en France, on pense cuisson vapeur, un poisson déjà sain, et en plus, on cuit à la vapeur, c'est pas sain. Mais en fait, ce qui se passe en Chine pour préparer ce plat, on met quand même une quantité considérable d'huile végétale pour donner justement ce côté plus moelleuse, parce que sinon, un poisson maigre cuit sans matière grasse, c'est très sèche. Et puis, il y a souvent, on a rajouté, ça peut être des jambons séchés, fermentés, plein de condiments, des piments, de l'ail, de gingembre. Et surtout, à la fin de la cuisson, quand le poisson est bien cuit à la vapeur, on arrose de l'huile chaude. Qui est sur la poisson. Et après, un peu de sauce soja pour relever, en fait. Parce qu'on considère la cuisson vapeur, elle est bien, elle est douce, mais elle n'est pas ce côté qui relève. Ce n'est pas comme la friture.
Oui. Donc,
l'huile chaude permet justement de encore ressortir le goût du poisson encore plus. Voilà, oui. Qui donne un plus.
Donc la cuisson vapeur est intéressante aussi parce qu'on va penser à beaucoup assaisonner, amener d'autres éléments qui vont intervenir dans le goût. Et qu'est-ce que ça va apporter exactement la cuisson vapeur? Alors c'est ce moelleux, cette cuisson douce qui va permettre de peut-être ne pas agresser les ingrédients.
Ne pas agresser les ingrédients aussi, ça dépend avec elle, c'est ça, la matière. La matière qu'on va cuire à la vapeur. Il y a des matières qu'on supporte pas d'autres genres de cuisson. Par exemple, dans le sud de la Chine ou aussi dans le nord, on utilise beaucoup une pâte mélangée avec la fécule, différents types de fécules. On fait une pâte et on fait la même chose pour préparer des bouchées comme ravioli ou des dim sum. Ce genre de pâte, on ne peut pas le faire passer dans l'eau bouillante, comme cuire des raviolis traditionnels ou des nouilles traditionnelles, parce qu'elle est trop fragile. Elle ne supporte pas. La seule façon de le cuire, c'est la vapeur, parce qu'elle sent vraiment un contact direct avec l'aliment. Mais juste cuit avec la vapeur, c'est moins agressif.
Ah, d'accord. Et si on mettait ça au four, par exemple, ça ne marcherait pas trop?
Non, ça va craquer la pâte. Et si on met dans l'eau bouillante, ça va fondre. C'est parce que la pâte, elle est trop fragile. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le mochi japonais.
Oui.
C'est un peu comme ça. Si on le jette dans l'eau bouillante, ça va fondre. La pâte, elle ne va pas tenir. Il n'y a plus de tenue, en fait.
Est-ce que c'est une histoire de l'amidon qui va se gélatiniser?
C'est l'histoire de l'amidon, oui. C'est exactement ça. Ouais. Mmh. Et aussi, c'est une histoire de gluten aussi. C'est pour ça, dans la cuisson vapeur, quand il y a le gluten qui est présent, on essaye, quand on prépare la pâte, on essaye de tuer, entre guillemets, le gluten.
Oui.
Et donc, il n'est plus élastique. La pâte, elle n'est plus élastique. Et dans ce cas-là, la cuisson vapeur, c'est très adapté parce que la pâte, elle est plus moelleuse. Elle n'a pas comme la consistance de nouilles ou de pâte italienne qui sont dans l'eau. On recherche souvent une texture plutôt élastique, al dente, ce qui mâche.
Oui, et tout à fait.
Donc, quand on tue le gluten, c'est la technique de l'eau bouillante pour faire la pâte et on n'a plus ce côté et dans ce cas-là, c'est la cuisson à la vapeur qui est très adaptée. On passe dans la cuisson dans l'eau parce que la pâte, elle est résistante, elle peut supporter l'eau bouillante.
Oui, et donc en fait, on supprime le gluten, il n'existe plus dans cette pâte?
Si, il existe, mais il perd son pouvoir. il perd son pouvoir élastique.
Je voudrais justement oui, qu'on parle des bao, parce que quand on regarde votre travail, on tombe énormément sur plein de photos de bao qui ont l'air délicieux. Donc oui, c'est quelque chose que vous aimez?
Oui, j'aime beaucoup ça, parce que c'est où je suis née, à Pékin, donc je suis originaire du nord de la Chine. Le bao, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans la vie des gens qui vivent au nord, parce qu'on mange plus de farine de blé, et on mange du riz, bien sûr, mais c'est pas comme dans le sud, c'est presque, quand on parle l'aliment de base qui accompagne un plat, c'est quasiment 100% systématiquement le riz, mais en Chine, ça ne traîne pas à la vapeur, au lieu d'un bol de riz. C'est très souvent ça. Oui.
Et donc, vous en avez préparé de différentes sortes, avec différentes farces. Il y en a au pak choy et shiitake. Vous avez proposé aussi une farce plutôt carottes confites aux oignons. Il y a aussi des bao sucrés avec des figues caramélisées, avec des noix et puis un autre truc au chocolat.
Le pain, on peut faire plein de choses, ouais.
Et est-ce que vous pouvez nous parler d'autres plats qui sont cuits à la vapeur en Chine?
Donc, il y a tout ce qui est pâte levée. On peut cuire à la vapeur. Et après, il y a aussi tout ce qui est à base de farine, pas de farine de blé, farine de riz, amidon de pommes de terre, on utilise beaucoup. Il y a aussi fécule de blé, c'est-à-dire c'est la farine de blé, mais on enlève la partie de gluten. Et tout ça, tout ce genre de farine sans gluten, il faut préparer la pâte avec l'eau bouillante.
Oui.
Sinon, parce qu'en manque de gluten, la pâte ne peut pas rester en boule. Ça reste un peu sableuse. Ça. On ne peut pas manipuler. Donc, mais l'eau bouillante permet d'avoir une boule bien collante. Et avec cette pâte, on peut préparer plein de choses. En Chine, on peut préparer des nouilles, voilà, des rouleaux, des crêpes. Et cette cuisson, souvent, c'est à la vapeur.
Est-ce que c'est aussi la même pâte qui permet de faire des hakka ou les raviolis vapeur?
Exactement, ouais.
Les raviolis vapeur crevettes?
Ouais, ouais.
Et donc, c'est la base, en fait, de tout ce qu'on va trouver dans la famille des dim sum.
C'est ça, ouais.
Qu'est-ce que c'est qu'un dim sum exactement? Est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs et nos auditrices?
C'est un terme, c'est un peu comme quand on parle de tapas. Tapas, c'est espagnol. C'est un ensemble de petits bouchées à la taille de, voilà, on peut mettre à la bouche, dans la bouche, dans une seule fois. Mais il y a plein de variétés. Donc le dim sum, ce terme en chinois, dim sum, ça veut dire toucher au cœur. La petite touche de cœur. C'est-à-dire, c'est quelque chose de délicat et petite. On met dans la bouche, en une seule bouchée, on mange en une seule bouchée. Et ce n'est pas quelque chose traditionnellement. Maintenant, traditionnellement, ce n'est pas quelque chose qu'on mange à l'heure de repas. C'est soit pour le petit déjeuner, ou pour un brunch, souvent, ou alors dans l'heure de thé, dans l'après-midi.
Ah oui.
Si vous allez à Hong Kong ou à Canton dans les années 90 ou avant, si vous voulez manger ça à l'heure de repas, vous ne trouverez jamais parce qu'on ne fait pas ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange à l'heure de repas. C'est pour le petit-déj ou l'après-midi. Mais maintenant, parce qu'avec la mode, les gens, y compris à Hong Kong ou à Canton, ils le servent à la longue de la journée, tout le temps.
Oui, c'est très demandé maintenant.
Oui. Ouais.
Et est-ce que c'est quelque chose quand même qui est axé sur le partage? On va faire ça avec des proches pour pouvoir commander plein de choses et se les partager?
C'est ça, oui. Parce qu'il faut commander avec plein de variétés. Dim sum, souvent quand on parle de dim sum en France, ça renvoie à des cuissons vapeur.
Oui.
Des petites bouchées vapeur. Mais en fait, dim sum, ça peut être friture, ça peut être mijoté, ça peut être poêlé, ça peut être... Après, il y a aussi vapeur. Mais c'est pas que vapeur. Oui, il y a toutes sortes de cuissons, mais le principe, c'est ça reste en petite bouchée. Ça peut être un ravioli frit ou alors une crevette frite ou un ravioli cuit dans l'eau. ça peut être plein de choses différentes, mais en petite quantité. Donc, il faut commander quand on va au restaurant de dim sum, en famille ou avec des amis, on va commander au moins une variété par personne. Et après, on va partager. C'est surtout dans le sud, à Canton, et après Hong Kong, c'est cantonais aussi. C'est leur tradition souvent, c'est dimanche, la famille ou en restaurant de dim sum et passer la matinée. Ça, c'est presque un gros petit déjeuner et ça finit par l'heure de déjeuner.
Dans quoi vous faites cuire vos plats à la vapeur, dans quel type d'ustensile?
La plupart du temps, je fais cuire dans le panier vapeur en bambou, mais ça peut être aussi un cuivre-vapeur en inox, un peu comme le couscoutier. Après, ça peut être aussi, parce que cuisson-vapeur, il y a au panier vapeur, il y a un couscoutier, mais il y a aussi, ça peut être à l'étouffée. C'est aussi cuit par vapeur, sauf que on empêche la vapeur sorte. En fait. Mmh. Mais les plats traditionnels comme bao, comme les jiaozi, quand c'est cuit à la vapeur, il faut absolument que la vapeur, en fait, il faut absolument que la vapeur passe, mais pas rester dans le panier. Sinon, oui. Ça enferme l'humidité et c'est très mauvais.
Ça, ah oui.
En fait, c'est le passage de vapeur qui cuit le bao ou le ragout. Et c'est pour ça l'usage de panier en bambou, c'est très bien parce que le panier en bambou n'est pas hermétique parce que le vapeur passe par les fibres, les maillages de bambou et le vapeur qui sort. Et c'est le passage qui cuit les aliments.
Ah d'accord, donc il y a un mouvement, ça permet un passage de...
Ouais.
J'ai aussi vu que vous avez préparé des mantous. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Les mantous, c'est presque la même pâte, très similaire que la pâte de bao, mais en gros, c'est une sorte de bao sans farce. Oui. C'est un pain nature.
C'est un pain nature.
À la vapeur.
Oui. Et c'est très joli à chaque fois. C'est vraiment des boules blanches comme ça qui ont l'air très moelleuses.
Elle est plus compacte, la texture est un peu plus compacte que le bao. Et bon, c'est un pain nature en Chine pour accompagner le repas. Et surtout quand il y a un plat qui a beaucoup de sauce, c'est idéal.
Oui, pour saucer du coup.
Oui.
En Chine, est-ce que les familles préparent souvent des mantous et des bao à la maison ou c'est plutôt quelque chose qu'on aime acheter dehors déjà tout fait?
Moi, je dirais traditionnellement, dans ma famille, ma grand-mère, du côté de mon père, prépare quand même beaucoup. Mais parce qu'on est du Nord, il y a des familles qui... Par exemple, si ma grand-mère maternelle, parce qu'elle est de Pékin, mais son mari vient du Sud, donc eux, elle a fait beaucoup moins souvent. Elle ne fait quasiment jamais de bao ni de manteau à la maison. Ça dépend de la famille, mais... Généralement, traditionnellement, les gens du Nord, autrefois, on prépare tous les bao, les mantous à la maison.
Et vous avez des souvenirs?
Et les raviolis aussi, bien sûr. Ah, oui, bien sûr, j'ai des souvenirs. Je me souviens, c'est quand j'étais à l'école primaire, j'avais 6 ans, 7 ans. Et chaque fois, avant que l'école soit finie, j'avais déjà eu très, très faim. Et souvent, ma grand-mère prépare les bao à la maison et je rentre. Je me souviens, on prépare des gros bao. En plus, ce n'est pas des bao qu'on va à Paris. C'est le bao comme la taille de presque de la paume de main.
Oui.
Et je me souviens, je peux manger 3 ou 4.
C'est, ah oui.
C'est très gourmand. Il y a le côté gourmand. Très rassasié parce que c'est à la vapeur, c'est gonflé et avec dedans il y a la farce. C'est très souvent en Chine c'est à la viande de porc, c'est très très gourmande aussi. Et tout ça c'est un côté réconfortant et très rassasié
pour avoir plein d'énergie après quand on a faim, c'est parfait.
Et aussi après à l'université, je me souviens, tous les matins, je prends pas le petit-déj à la maison. J'arrive tôt à l'université, avant que les cours soient commencés, je prends mon petit-déj, aller à la cantine, à acheter des bols. Et d'ailleurs, tous mes camarades, on faisait ça.
Ah oui.
Acheter des bols avant le cours commence et on mange ça.
Ils étaient bons, ces bols de la cantine?
Oui, oui. Elle est un peu grasse, la farce, mais c'est bien.
Oui. Oui, parfois c'est un peu gras, mais on se dit que c'est très gourmand quand même.
Oui. Parce que ça fait un équilibre avec la pâte qui est quand même elle n'a pas de matière grasse, elle est, voilà, c'est juste la farine et ça.
Oui.
Ça crée c'est un vrai. Côté oui.
Les deux se complètent bien quoi, c'est comme si on pouvait saucer un peu avec l'ensemble déjà de la pâte autour.
Ouais.
En pâtisserie aussi, la cuisson à la vapeur offre mille possibilités. Gâteaux, flans, cakes. De la même façon qu'un saumon cuit à la vapeur gardera plus longtemps son fondant, un muffin sera plus moelleux cuit à la vapeur qu'au four. Merci à Margot Zhang et à Hervé Tisse de nous avoir donné de leur temps pour parler de cuisson vapeur. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée par Marine Rowe, programmée par Clara Maté, mixée par Thomas Decourt et coordonnée par Laura Cuissard. À mercredi prochain!